Bonjour, je m'appelle Wadad, je viens du Liban.
Je viens du Tchad.
Le Canada, au niveau de la géographie, c'est le deuxième plus grand pays au monde.
Il y a des personnes francophiles, mais comme vous avez entendu, il y en a aussi qui sont francophones. Mais francophone, la francophonie, qu'est-ce que c'est? Les dictionnaires disent qu'un francophone est une personne qui parle habituellement le français. Dans beaucoup de pays francophones, on parle souvent une autre langue. Par exemple, c'est le cas avec des pays africains comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Tchad et le Togo, où le français représente l'héritage colonial. Dans certains de ces pays, le français est toujours la langue de culture, d'administration et des affaires, mais le fait que ces pays ont été soumis à l'autorité française peut se refléter dans les attitudes des gens. C'est compréhensible parce que quelques-uns de ces pays ont dû lutter douloureusement pour leur indépendance, comme par exemple l'Algérie.
Madame, vous venez d'Algérie. Votre pays a une histoire commune avec la France. Voulez-vous en parler aux auditeurs finlandais?
Effectivement, mon pays a une longue histoire commune avec la France, parce que la France a occupé l'Algérie pendant 130 ans. Et jusqu'à présent, disons, il y a encore beaucoup d'influence, disons, culturelle française sur l'Algérie. Concernant le français, on peut dire d'abord que l'Algérie est un pays francophone de fait. Pourquoi de fait? Parce qu'il ne, vu l'histoire qu'il a eue et toute cette histoire passionnée et douloureuse entre les deux peuples, le peuple algérien et ses institutions, l'État algérien, n'a jamais voulu reconnaître d'être un pays appartenant à la francophonie. C'est pour ça que l'Algérie ne participe jamais aux rencontres internationales sur la francophonie. Mais c'est un pays qui est de fait francophone. La langue française est enseignée comme deuxième langue après l'arabe dès le primaire. Et par exemple à l'université, les enseignements, beaucoup d'enseignements, notamment les enseignements scientifiques comme des sciences techniques, sciences exactes, médecine, se font actuellement en langue française.
D'autre part, il y a des Français qui sont nés en Algérie et qui ont eu du mal à quitter leur pays natal après la guerre d'indépendance. Familièrement, on les appelle en France les pieds noirs.
Les trois pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, forment un ensemble qui s'appelle le Maghreb, signifiant l'endroit où le soleil se couche. Les Arabes ont envahi ces pays au 8e et 9e siècle en leur apportant leur religion et leur culture. Le français n'est pas une langue officielle dans ces trois pays, mais on continue à le pratiquer depuis l'époque coloniale. La Tunisie et le Maroc sont fréquentés par des touristes finlandais. Mais sur les plages ensoleillées, on ne pense pas que 51% des hommes marocains et 78% des femmes marocaines sont analphabètes. En revanche, la Tunisie est un pays plus développé, où les femmes ne portent pas de voile et où la polygamie n'est pas acceptée. Généralement, les Tunisiens s'intéressent à l'enseignement et c'est très rare qu'on trouve des enfants qui ne fréquentent pas l'école. Pourtant, les jeunes n'ont pas une grande confiance en leur avenir, car le travail après la maîtrise ou le diplôme n'est pas garanti. On souffre du problème du chômage des cadres.
Et maintenant, allons voir un peu plus près un pays francophone qui se trouve en Afrique centrale.
Monsieur, vous venez de quel pays?
Je viens du Tchad.
Comment est votre pays?
Bon, mon pays était avant une colonie française. Il a accédé à l'indépendance en 1960. Et dans ce pays qui est constitué de beaucoup de langues, le français, qui est évidemment une langue étrangère, est devenu une langue officielle parce que cette langue permettait à tous ces gens qui ont chacun donc une langue propre à lui, tout ça. Donc cette langue le français là leur permettait de se comprendre. Donc elle est devenue une langue qui est commune à tous les Tchadiens. Bon, ça c'est donc une chose. Mais par exemple, l'arabe, qui est également une langue importante, disons, coexiste avec le français. Actuellement, le français est une langue officielle. L'arabe aussi, par la suite, est devenu une langue officielle parce que, disons, tous ces gens qui avaient une langue, pas l'arabe, mais une autre langue maternelle, disons, utilisaient pour une grande partie l'arabe pour se communiquer au marché. Bon, mais le français, c'est la langue utilisée dans l'administration. Mais disons, au marché, la majorité des gens, communiquent en arabe.
Dans ce pays africain, le Tchad, le français est une langue officielle avec l'arabe. Au Tchad, le français sert comme langue d'administration, mais il aide les gens aussi à se comprendre, parce qu'il y a tant de langues et de dialectes locaux. Le Tchad est un des pays les plus pauvres d'Afrique. De quoi vit-il actuellement? Quel nouveau projet apportera la prospérité au pays, mais des problèmes aussi?
Oui, bon, mon pays, c'est, disons, un pays à vocation agricole. On cultive le coton, qui est donc une culture qui rapporte des devises au pays. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que actuellement, il y a un grand projet qui est, disons, en cours, c'est l'exploitation du pétrole, et qui suscite beaucoup d'espoir, parce que c'est quand même une réserve importante dans la partie sud de notre pays. On a pour le moment des problèmes. Bon, on sait que c'est une quantité importante qui pourrait rapporter des devises et qui pourrait même changer un peu l'état de pauvreté du pays. Mais ce qui est là, c'est qu'on parle beaucoup de problèmes d'environnement et le gouvernement a beaucoup de problèmes parce qu'il y a les organisations internationales qui ne sont pas toujours d'accord avec ce que le gouvernement fait. On critique parce qu'on pense que l'environnement n'est pas préservé avec cet oléoduc qui traverse une bonne partie du Tchad et tout le Cameroun, parce que le Tchad est un pays enclavé. Et donc, pour le moment, il y a des problèmes, mais je crois que si le problème que posent les organisations qui militent en faveur de la préservation de l'environnement, si ce problème est réglé, je pense que les travaux vont commencer.
On va construire une conduite de pétrole, c'est-à-dire un oléoduc, à travers le Tchad et le Cameroun. Ce projet crée pourtant des problèmes pour l'environnement qui sera en danger d'être pollué.
Comme au Tchad, dans beaucoup d'autres pays africains, la langue française sert de moyen unificateur. Par exemple, au Sénégal, la situation linguistique est tellement complexe que le français est indispensable pour la communication mutuelle parmi les groupes parlant chacun son propre dialecte. Le français est la langue officielle au Sénégal. Il est utilisé dans l'administration et dans l'enseignement, mais plus on s'éloigne des villes et de la vie urbaine, plus les patois locaux deviennent importants. Pour nous, Européens, le Sénégal est surtout connu pour le rallye Paris-Dakar. Il y en a qui pensent que cela cause des problèmes à l'environnement. La flore et la faune peuvent souffrir des gaz d'échappement, sans parler du bruit.
Bien que le temps de la colonisation soit passé, la France possède toujours certains départements et territoires d'outre-mer. Ces îles se trouvent soit dans l'océan Pacifique, soit dans la mer des Antilles, que l'on appelle aussi la mer des Caraïbes. La Guadeloupe et la Martinique sont très populaires parmi les vacanciers français. Ça se comprend quand on écoute cette jeune Française qui a passé sa lune de miel en Guadeloupe.
La Guadeloupe bénéficie de nombreux atouts qui en font une destination de rêve pour les touristes français. Le climat tropical adouci par les alizés reste le même toute l'année, avec une température oscillant entre 22 et 30 degrés. Les magnifiques plages de sable blanc et fin, ombragées par les cocotiers, sont propices à la paresse. La mer turquoise, toujours à 25 degrés, permet de pratiquer une multitude de sports nautiques. Les fonds coralliens recèlent de poissons multicolores et font la joie des plongeurs. La diversité des paysages, la végétation luxuriante et la beauté des fleurs tropicales ravissent les amateurs de randonnée. Les papilles gustatives ne sont pas en reste. Les restaurants proposent de savoureuses spécialités culinaires savamment épicée essentiellement à base de poissons et de crustacés. Et personne ne peut résister au fameux tipunch, le cocktail local à base de rhum et de sucre de canne additionné d'un quartier de citron vert. Enfin, la Guadeloupe, c'est aussi et surtout synonyme de fête. Tout au long de l'année, nombre occasions sont prétexte à danser la biguine ou le zouk sur fond de musique créole. Et en plus, les touristes français n'ont pas de problème avec la langue.
Un autre pays qui a attiré beaucoup de touristes français avant la guerre civile est le Liban. À part son climat doux et ses paysages magnifiques, le Liban a tenté les Français parce qu'on y parlait français. Et on y parle toujours. Pourquoi ?
Alors, pourquoi est-ce qu'on parle français au Liban ? Bien sûr, c'est une très très bonne question. Alors, si je parle français sans accent, peut-être, c'est bien parce que je suis née en 1946. Donc, c'était l'époque où on avait le mandat français, les écoles étaient dirigées par des Français, il fallait à tout prix parler français. Toutes mes études ont été faites en langue française, mais tant mes études scolaires que secondaires qu'universitaires. Le tout a été fait en langue française. Maintenant, il est vrai que petit à petit, les jeunes s'orientent vers la langue et la culture anglaise, anglo-saxonne du moins, qu'ils considèrent peut-être un peu plus facile, mais c'est une fausse idée parce que la culture française vous ouvre des horizons aussi extraordinaires. Et de plus en plus, l'ambassade de France fait de grands efforts, les Français actuellement font de grands efforts pour pouvoir redonner aux Français la place qu'il avait dans les années 50. Cela a déjà commencé à donner d'excellents résultats. Les résultats scolaires sont déjà bien meilleurs en langue française. On le remarque au niveau de l'école et même au niveau de l'université.
Le Liban est devenu un mandat français après la Première Guerre mondiale. Écoutons ce que dit cette Libanaise à propos de son pays.
Bon, je vous présente mon pays. C'est un très très beau pays. Le climat est magnifique. Vous avez en même temps à quelques kilomètres la montagne et la mer. Vous pouvez faire du ski en hiver et descendre vous baigner dans la Méditerranée. C'est un pays formé de 17 communautés religieuses, 17 confessions, et c'est ce qui fait notre grand problème. Les 17 confessions, c'est ce qui a un peu provoqué la guerre aussi pendant 20 ans, une guerre civile qui a ruiné le pays, qui a fait fuir beaucoup de Libanais à l'extérieur du pays. C'est pourtant un pays qui a des institutions. Vous avez un président de la République qui dirige le pays, chef de l'exécutif, aidé par des ministres, avec à leur tête le Conseil des ministres, une assemblée bien sûr. Une assemblée formée de 128 députés, mais évidemment, comme il s'agit d'un pays confessionnel, les députés sont en nombre proportionnel. Vous avez également un pouvoir judiciaire très fort, très influent, très intègre. Très influent, c'est-à-dire intègre et compétent. Des écoles, les écoles, bien sûr, le Liban est constitué d'un grand nombre d'écoles. Les Libanais ne cherchent que la culture, c'est ce qui leur importe le plus. Les écoles sont en général francophones. Nous avons également des écoles anglophones, des universités tant francophones qu'anglophones. Nous avons une université très célèbre qui est l'université Saint-Joseph, celle des pères jésuites. C'est là où j'ai été moi-même formée. Vous avez l'EUB, l'American University of Beirut, qui forme les étudiants à l'anglais, quoi, des études anglaises, des études universitaires anglaises, et vous avez plusieurs autres universités également. Oui, je voudrais aussi vous parler du climat. Le climat est très bon. Comme je vous le disais, vous pouvez passer de la mer à la montagne. Facilement. Les gens sont chaleureux, beaucoup de convivialité, la cuisine libanaise est excellente, les relations sont faciles, les gens vous abordent facilement. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est un peu ce problème de friction entre différentes cultures. Je ne vais pas dire entre différentes religions, mais entre différentes cultures. Nous avons également le problème de l'occupation du pays actuellement par Israël, je ne sais pas, mais disons par les voisins. Mais nous espérons avoir prochainement une solution dans le processus de paix, avec le processus de paix. Espérons que ce sera cette année.
La cuisine libanaise est présente même à Paris, car il y a des spécialités étrangères qui sont appréciées par les gourmets français. C'est le cas avec le couscous nord-africain et la cuisine créole. Même les pommes frites qu'on mange chaque jour en France viennent de l'extérieur de la France, de Belgique. À propos de la Belgique, qui est un pays francophone, il y a tant de bonnes choses qui méritent d'être connues, comme par exemple le chocolat. Souvent, on pense que la bière belge n'est qu'une bière à la framboise ou à la cerise. Mais qui croirait que parmi les 600 différentes sortes de bières, chacun en trouve une qui lui plaise? Les Belges devraient faire plus de publicité pour leur bière pour qu'elle ne soit plus sous-estimée. Est-ce que vous êtes au courant du fait qu'en Belgique, il y a plus de restaurants avec des étoiles Michelin par personne qu'en France?
Depuis les temps anciens, le territoire de la Belgique a été occupé par plusieurs nations, bien que César lui-même ait dit que le peuple gaulois le plus courageux était les Belges. Parmi les occupants, on peut citer les Espagnols, les Autrichiens, les Français, les Hollandais et les Allemands. On a même dit que la Belgique n'est qu'un faux État qui a été créé par les grandes puissances. Quelques Belges eux-mêmes disent qu'il existe trois Belgiques différentes, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.
Je vais vous présenter en quelques mots le plat pays qui est le mien. Le plat pays, comme vous le savez, c'est la Belgique. La Belgique est un tout petit État européen de 10 millions d'habitants. Petit État, mais trois langues officielles. Le français, le néerlandais, qu'on appelle en Belgique le flamand, et l'allemand. Le français au sud, le flamand ou néerlandais au nord, et l'allemand près de la frontière allemande, à l'est. Alors, parmi ces 10 millions d'habitants, la majorité, 6 millions pratiquement, sont néerlandophones. Ça veut dire que les francophones, nous formons la minorité. Comme vous l'imaginez, il y a bien sûr des problèmes linguistiques entre ces communautés, puisque non seulement il s'agit de deux peuples, deux langues différentes, mais aussi deux peuples d'origine tout à fait différentes, les gens du Nord étant des Germains, les gens du Sud étant des Latins. Donc les problèmes vont bien plus loin que les problèmes de querelles linguistiques qui sans doute sont les plus connus dans le monde. Petit pays, fédéral depuis quelques années. Ça veut dire qu'il existe trois communautés indépendantes. On dit que la Belgique est le pays où le fédéralisme est poussé le plus loin, au point que la politique étrangère, c'est-à-dire le droit de signer des traités, des accords de paix, de déclarer la guerre, est aux mains des communautés et plus aux mains de l'État. L'État n'a plus que les prérogatives de les finances, c'est-à-dire nous avons une monnaie unique qui disparaîtra bientôt. D'ici 2 ans, nous adopterons l'euro, comme le reste de l'Europe, et la monnaie est le roi. Notre roi s'appelle Albert, c'est le roi Albert, la reine Paola. C'est une dynastie qui va bientôt fêter ses 40 ans de mariage, je crois. Voilà. La Belgique est le siège d'organismes internationaux, comme la CE, l'OTAN et bien d'autres. Alors, chaque communauté a son propre gouvernement. Mais en plus des communautés, il y a aussi des régions. Et les régions, ce qui complique le tout, c'est que les régions ne correspondent pas nécessairement aux communautés, qui ont aussi chacune leur exécutif. Donc, finalement, en Belgique, nous avons 6 assemblées législatives, 6 assemblées exécutives, etc., etc. La situation politique en Belgique est très, très compliquée. En ce qui concerne la communauté française de Belgique, elle occupe le sud du pays, c'est ce qu'on appelle la Wallonie. Alors, les habitants de la communauté française s'appellent les Wallons. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le Wallon, qui était un dialecte du latin, n'a jamais été considéré comme une langue. Et actuellement, nous parlons tous français et le Wallon a pratiquement disparu.
Quoique le Wallon ait disparu, l'installation de l'Union européenne, en revanche, a apporté de nouvelles langues en Belgique, mais le français a toujours su garder sa position d'excellence. L'Union européenne et la politique internationale ont aussi laissé des traces dans la vie culturelle, surtout à Bruxelles. Généralement parlant, les Belges peuvent être fiers de la danse et du théâtre du pays. Le surréalisme et l'art nouveau y sont nés, et tout le monde connaît la bande dessinée Tintin et le nom Georges Simenon, auteur du célèbre inspecteur Maigret. L'instrument indispensable de la musique jazz, le saxophone, a été inventé par un Belge, Adolphe Sax. Avant qu'on écoute une chanson de Jacques Brel, il nous faut une blague française typique qui reflète les relations plus ou moins amicales entre les Français et les Belges. Un Belge conduit sa voiture dans une rue à sens unique. Un agent de police l'arrête et lui demande s'il n'a pas vu de flèche. Le Belge répond « Non, monsieur, mais je n'ai pas vu d'Indien non plus. »
De ce plat pays, on se déplace au pays montagneux, la Suisse. S'il fallait d'un mot résumer l'entier de la Suisse, c'est sans doute le mot « différence » qui conviendrait le mieux. Les différences se voient par exemple dans les paysages, dans les gens et dans le système scolaire. Les Alpes couvrent une bonne partie de la Suisse. Dans la montagne, on peut admirer les glaciers et les eaux courantes. En bas, il y a des vallées ensoleillées. Les lacs, petits et grands, jouent un rôle important dans le paysage suisse. Et les pentes servent de pâturage. Aujourd'hui, avec plus de 7 millions d'habitants, la Suisse est l'un des pays avec la plus forte densité démographique du monde. La diversité se rattache aux quatre langues parlées dans le pays. La langue la plus répandue est l'allemand, avec 70%. Viennent ensuite le français, l'italien et le romanche. La Suisse romande comprend la partie ouest de la Suisse. La diversité démographique est accentuée par le grand nombre d'étrangers qui vivent dans le pays. Étant un pays neutre, la Suisse peut offrir un siège à plusieurs organisations internationales, comme les Nations Unies et la Croix-Rouge. C'est aussi un centre important pour les banques et compagnies d'assurance. La Suisse est une république fédérale qui est divisée en cantons. Dans l'administration et dans le système scolaire, il y a certaines idées de base qui sont communes à tous, mais finalement, chaque canton pratique son propre système adapté à son identité régionale et locale. Quant à l'économie du pays, il y a des idées, mais il n'y a pas de matière première. La métallurgie, par exemple, part de produits semi-finis et importés qu'elle transforme en produits finis. On y trouve aussi de l'industrie chimique et pharmaceutique. Pourtant, le secteur le plus connu est l'industrie horlogère.
N'oublions pas le Canada francophone. Vous connaissez certainement le drapeau à feuilles d'érable. Les couleurs officielles du Canada, le rouge et le blanc, se voient souvent dans les maillots des joueurs de hockey sur glace. Les villes francophones les plus grandes sont Québec et Montréal, et Québec est aussi le nom d'une province. La moitié de ses habitants, les Québécois, ne se sont pas contentés d'être soumis à l'influence anglo-américaine. Ils ont voulu l'indépendance de la province, et c'est pourquoi on a organisé un référendum en 1995. Le résultat a été de 50,6% de non et de 49,4% de oui. Mais quelle est la situation aujourd'hui? Écoutez et écrivez en français ce qu'une jeune Canadienne dit avec son accent canadien. D'abord, il peut paraître un peu difficile à comprendre.
Je vais vous présenter mon pays, le Canada. Le Canada, au niveau de la géographie, c'est le deuxième plus grand pays au monde, après la Russie. Il se compose de 10 provinces et 3 territoires. Le territoire le plus récent, c'est le Nunavut, au nord. Il a été fondé le 1er avril 1999. Nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Ce qui fait que tous les élèves à l'école doivent apprendre le français et l'anglais, les deux langues. L'anglais est parlé majoritairement dans 9 des 10 provinces, et le français est la langue majoritaire dans une des 10 provinces. La province majoritaire en français, c'est le Québec. Les relations sont très bien entre les deux langues. On s'entend très bien. Tous les services sont offerts dans les deux langues.
Vous avez bien compris? À part l'accent, il y a des différences de vocabulaire.
Au niveau des particularités du français, il existe une différence entre le français de France et le français au Québec et au Canada. Comme par exemple, pour voiture, certains utilisent un char. Au lieu de dire pomme de terre, certaines personnes disent patate. Et nous avons encore gardé certaines expressions de l'ancien français, comme par exemple, pour sortir le soir, on dit on va aller veiller. Au lieu de verrouiller notre porte, on barre les portes. Et on utilise encore moi et toi au lieu de moi et toi.
Au niveau du vocabulaire, il y a des différences pareilles entre le français parlé en France et celui de la Suisse et de la Belgique. Au lieu de dire 70, 80 et 90, on dit 70, 80 et 90. En Suisse, on peut dire aussi 80 pour 80. En Belgique, les repas sont le déjeuner, le dîner et le souper. Et on peut y employer l'expression « s'il vous plaît » aussi en donnant quelque chose à quelqu'un.
Il y a au moins un pays francophone où la langue française n'a pas de rival. C'est la principauté de Monaco. Cet état lilliputien, dont la superficie est de moins de 2 km², est une ville et un pays en même temps. Le casino de Monte-Carlo, une des attractions principales du pays, rapporte des devises. D'ailleurs, les monégasques ne paient pas d'impôts. Quel paradis ! Mais en réalité, il est très difficile de devenir un citoyen de Monaco, à moins que vous ne soyez millionnaire ou que vous vous mariez à un ou une monégasque. Bonne chance !